suite d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 6 avril 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, au Burkina Faso, les trois principaux accusés de l'assassinat de Thomas Sankara, dont l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré, ont été condamnés à la prison à perpétuité. Ce verdict est l'épilogue d'une affaire qui aura duré 35 ans. Paul Sankara, frère cadet de Thomas Sankara, se dit soulagé. L'avocat de l'ancien président burkinabé dénonce une sentence rendue par un tribunal inique. Vous entendrez aussi la réaction de Maître Pierre-Olivier sur Ukraine. La guerre pourrait durer des mois, voire des années, selon le chef de l'OTAN. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Ce fut une journée historique au Burkina Faso. La justice a décidé la prison à vie pour les principaux assassins de Thomas Sankara. Il s'agit de l'ancien président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Les autres accusés écopent de peine allant de 3 à 20 ans. Il y a aussi des acquittés. C'est l'épilogue d'une affaire qui aura duré 35 ans. À Ouagadougou, retrouvons notre correspondant Lamine Traoré.
Le tribunal militaire a retenu la prison à perpétuité pour Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré pour l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 autres de ses compagnons le 15 octobre 1987. 14 accusés au total, dont 12 présents. Les deux autres, l'ancien président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, son chef de sécurité au moment des faits, ont été jugés par contumace. L'ancien président vit en exil en Côte d'Ivoire et Kafando est toujours en cavale. Le tribunal a aussi condamné à 20 ans de prison ferme Drissa Sawadogo et Nabos Wende Ouedraogo. L'accusé Yamba Élisée Ilboudo écope de 11 ans de prison ferme. Jean-Pierre Palme, DJPP, colonel-major de gendarmerie et ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, écope 10 ans de prison ferme ainsi que Thibaut Ouedraogo. Albert Belemlilga et Jakari Ademé sont condamnés à 5 ans de prison avec sursis. Bosso Betraoré, les médecins Alidou Diébré et Amadou Kafando ont été acquittés. D'après le tribunal, les parties qui souhaitent faire appel ont 15 jours pour le faire. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La famille du père de la révolution burkinabé se dit soulagée. Abdourahman Dia a recueilli la réaction de Paul Sankara, frère cadet de Thomas Sankara, qui vit ici à Washington.
Je peux enfin souffler, même si je refuse le terme de satisfaction, parce que le drame, l'hécatombe créé, le trou béant qui a été fait ce jour d'octobre 87, 15 octobre 87, ne saurait être comblé. Maintenant, la justice a fait son travail. C'est le lieu pour moi ici de remercier tous ceux qui, pendant plus de 3 décennies, ont œuvré, que ce soit à l'ombre ou au grand jour, publiquement ou de manière privée, pour apporter enfin la possibilité que ce procès puisse se tenir à partir du 11 octobre 2021 pour finir le 6 avril avec un verdict qui nous semble en tout cas correct.
Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire. Hyacinthe Kafando court toujours. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire?
L'un est ivoirien. Est devenu ivoirien, malgré les 27 ans de gestion à la tête de l'État au Burkina Faso. Soit il terminera sa vie là-bas, soit il reviendra au Burkina, il répondra. Quant au deuxième, il court toujours, j'ai envie de dire que ce sera la même chose pour lui.
Paul Sankara, frère cadet de Thomas Sankara. La condamnation à la prison à vie de l'ancien président Blaise Compaoré n'est pas une surprise pour son avocat, Mohamedou Mfa, adjoint à Paris, Maître Pierre-Olivier Sur, qui dénonce un verdict rendu par un tribunal inique.
Ce n'est absolument pas une surprise juridique, puisque quand on ne comparaît pas devant un tribunal ou une cour, et qu'on est jugé en contumace, et qu'on est déclaré coupable en son absence, donc on est nécessairement, c'est la loi, condamné au maximum. Et le maximum, c'est la perpétuité. Donc il n'y a pas de surprise juridique ou judiciaire ou procédurale. En revanche, bien sûr, d'un point de vue moral et face à l'histoire, je m'interroge en particulier sur les conditions dans lesquelles ce procès s'est déroulé. D'abord, au moment de l'ouverture du procès, lorsque les hauts militaires ont refusé de composer ce tribunal militaire, hein, et se sont tous fait récuser les uns après les autres. Ensuite, au fil du temps, le procès a été arrêté par un coup d'État, rien que ça. Et puis, d'une façon générale, on sait que c'est une procédure qui nous a jamais été rendue contradictoire, c'est-à-dire que les droits de la défense, l'égalité des armes, aucun des grands principes n'a été respecté.
Qu'est-ce que vous entendez faire maintenant que le verdict est déjà prononcé ?
J'entends soit attendre que ce verdict rendu par un tribunal inique tombe dans les oubliettes de l'histoire, soit de le faire censurer par des juridictions internationales sérieuses.
Pierre-Olivier Issu, avocat de Blaise Compaoré. En Guinée, un ancien premier ministre et trois ministres d'Alpha Condé ont été inculpés mercredi pour détournement de fonds publics et croués. Ibrahima Kassori Fofana, premier ministre de mai 2018 jusqu'au coup d'État, et les ministres de la Défense, Mohamed Diané, de l'Environnement, Oye Gilavogui, et des Hydrocarbures, Zakaria Koulibaly, tous membres du dernier gouvernement Condé, ont été placés sous mandat de dépôt à Conakry, a dit un de leurs avocats, Maître Salifou Béavogui. Ils seront jugés lundi par une chambre de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Les combats entre l'armée et le mouvement rebelle M23 ont repris aujourd'hui dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, après une semaine d'accalmie. Certaines collines occupées par le mouvement du 23 mars depuis le début de la semaine dernière dans le territoire de Rutshuru, frontalier de l'Ouganda, ont été reprises par les forces armées de la RDC, mais d'autres ont résisté du moins, et les combats se poursuivaient en fin de journée. Éthiopie, Amnesty International et Human Rights Watch accusent les forces de sécurité et des milices de s'être livrées à un nettoyage ethnique et à des exactions s'apparentant à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité dans la région du Tigré. Dans un rapport commun publié aujourd'hui, les deux ONG affirment que les civils tigréens ont été la cible d'une campagne implacable dans la partie occidentale du Tigré, région du nord de l'Éthiopie, où un conflit a éclaté entre rebelles tigréens et troupes pro-gouvernementales en novembre 2020. Les forces de sécurité au Soudan ont tiré aujourd'hui des grenades lacrymogènes sur des manifestants et même à l'intérieur d'un hôpital à Khartoum, ont indiqué des témoins et des médecins, alors que des militants appellent à protester contre le coup d'État. La rue entendait conspuer l'auteur du putsch d'octobre dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan, pour un double anniversaire, le 6 avril 1985, quand la rue a poussé l'armée à évincer le président Jafar el-Nimeri, et le 6 avril 2019, lorsque la foule a obligé encore une fois les généraux à démettre Omar el-Béchir. Les élections législatives tunisiennes prévues en décembre se dérouleront en deux jours, les électeurs votant pour des candidats individuels et non pour des listes, comme lors des scrutins précédents, a déclaré aujourd'hui le président Kais Saied. Le chef de l'État tunisien a indiqué vouloir former un comité chargé de réécrire la Constitution et de la soumettre à un référendum en juillet, avant d'organiser des élections législatives en décembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, Kiev a appelé aujourd'hui les habitants de l'est de l'Ukraine à évacuer la région immédiatement. Les autorités craignent une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass, désormais cible prioritaire du Kremlin. Les derniers développements de la guerre en Ukraine avec Eric Manirakiza.
Les autorités régionales appellent la population à quitter ces territoires et font tout pour que les évacuations se déroulent de façon organisée, a déclaré la vice-première ministre, ajoutant qu'il fallait le faire maintenant, sous peine de risquer la mort. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN a averti que Vladimir Poutine n'a pas renoncé à sa volonté de s'emparer de toute l'Ukraine et la guerre risque de durer des mois, voire des années. Jens Stoltenberg a déclaré que l'Alliance doit se préparer à un long parcours concernant le soutien à l'Ukraine, le maintien des sanctions et le renforcement de leur défense commune. Par ailleurs, l'Assemblée générale de l'ONU va procéder demain jeudi à un vote sur une demande des Occidentaux de suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme siégeant à Genève en raison de l'invasion de l'Ukraine. Il faudra une majorité des deux tiers des pays qui voteront pour sur les 193 membres de l'Assemblée générale. Les abstentions ne seront pas prises en compte.
Et les États-Unis ont annoncé aujourd'hui une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qui vise notamment les grandes banques et les filles de Vladimir Poutine. En même temps que tombaient les nouvelles sanctions, les États-Unis ont annoncé l'inculpation du milliardaire Konstantin Malofev. Selon Washington, la Russie pourrait voir son économie s'effondrer de quelque 15% cette année. Le Royaume-Uni a lui aussi durci ses sanctions contre Moscou, mercredi en annonçant la fin des importations de charbon russe. Et puis, en Israël, moins d'un an après son arrivée au pouvoir, la coalition du premier ministre Naftali Bennett a perdu aujourd'hui sa majorité au Parlement après le départ surprise d'une députée de droite, aussitôt courtisée par le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou. La coalition dispose désormais donc de 60 sièges, soit autant que l'opposition. Mais si celle-ci parvenait à rallier au moins un autre député du gouvernement, elle pourrait initier une motion de censure et ainsi potentiellement mener le pays vers de nouvelles législatives. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Les start-up africaines ont levé 1,8 milliard de dollars de fonds au premier trimestre 2022, soit 2,5 fois le montant obtenu sur la même période en 2021. Trois méga transactions de 100 millions de dollars et plus ont déjà été faites par la start-up tunisienne Instadeep, la fintech nigériane Flutterwave et la fintech de mobilité Move Africa. Le Maroc a ratifié le traité portant création de l'Agence africaine du médicament relevant de l'Union africaine lors d'une cérémonie hier au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Ce traité consiste à renforcer la capacité des pays africains à réglementer les médicaments afin d'améliorer l'accès à des médicaments sûrs et efficaces à travers le continent africain. Le prix des matières premières agricoles, notamment le blé, le maïs et le colza, grimpe à nouveau alors que les prochaines récoltes approchent. Habituellement, les prix évoluent en fonction de la météo, des rendements prévus et du jeu de l'offre et de la demande. Mais aujourd'hui, la volatilité reste de mise face à l'enlisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le cours du blé a bondi de 25% depuis l'invasion de l'Ukraine et celui du maïs d'environ 17%.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. L'international sénégalais Sadio Mané a marqué mardi à Lisbonne lors de la victoire de Liverpool 3-1 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'attaquant des Reds a par la même occasion égalé le record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions en inscrivant son 13e but de la Ligue des Champions depuis la saison 2017-2018. C'est également le 22e de la carrière du Sénégalais en C1. Il devient du coup le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Reds en Ligue des Champions. La commission de discipline de la FIFA examinera le 21 avril la réclamation que lui a transmise la Fédération algérienne de football sur l'élimination des Fennec au Mondial 2022. L'Algérie, qui demeure bien secouée par ce drame à la fin du barrage retour face au Cameroun, avait déposé un recours auprès de la FIFA, s'en prenant à l'arbitrage jugé scandaleux du Gambien Bakary Gassama, qui aurait, selon Alger, faussé le résultat de ce match décisif le 19 mars dernier à Blida. Les Lions Indomptables avaient battu les Fennecs 2-1 sur un but à la dernière seconde de Karl Toko Ekambi. La compétition avait scellé la qualification des Lions pour leur 8e Coupe du Monde et la disqualification des Fennecs. Dans son recours, l'Algérie demande même de rejouer le match. La situation a entraîné la démission du président de la Fédération algérienne de football. L'élection du président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, aura enfin lieu le 23 avril, selon les conclusions de l'Assemblée générale extraordinaire qui a réuni ce 5 avril les clubs ivoiriens. Ces derniers ont adopté les textes proposés par la FIFA. Pour être candidat à la présidence de la FIF, il faut désormais disposer de 4 parrainages sans catégorisation. Le dépôt des candidatures se fera du 7 au 9 avril. La campagne électorale commencera le 16 avril. Pour terminer, le trophée de la Ligue européenne des champions, la Coupe aux grandes oreilles, a démarré sa tournée africaine 2022 à Kinshasa en RDC hier mardi 5 avril. Ce mercredi, un carnaval motorisé sera organisé dans les différentes artères de la capitale congolaise pour célébrer le trophée. C'est la deuxième fois qu'il passe à Kinshasa après 2013. Après la RDC, la coupe aux grandes oreilles ira en Éthiopie, au Nigeria et au Mozambique. C'est l'ancien footballeur hollandais Clarence Seedorf, le seul joueur à avoir gagné la prestigieuse compétition avec 3 clubs différents, qui accompagne le trophée.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. L'ancien président burkinabé déchu, Blaise Compaoré, a été condamné mercredi par un tribunal militaire à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Réfugié en Côte d'Ivoire depuis qu'il a à son tour été renversé par un coup d'État en 2014, Blaise Compaoré a été jugé par contumace. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, a recueilli les réactions sur cette décision de la justice burkinabé.
Silence de cimetière au tribunal militaire de Ouagadougou à l'annonce des peines. Sur les 3 principaux accusés, Blaise Compaoré, Yassine Kafando et Gilbert Diendieré, qui étaient le seul présent dans la salle, sont tous condamnés à la prison à perpétuité. Pour les familles des victimes, c'est comme un ouf de soulagement. Mariam Sankara, veuve de Thomas Sankara.
Nous avons attendu depuis 35 ans. On a tous attendu ensemble. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Le juge a donné son verdict. C'est la loi. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer. Le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Je pense que ce verdict, en tout cas, va donner à réfléchir à beaucoup de personnes.
La partie civile pense que les familles pourront maintenant faire leur deuil. Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile.
L'Afrique tout entière et peut-être le monde se souviendra un jour qu'un peuple s'est battu pendant près de 34 ans pour que justice soit rendue à des hommes valeureux qui sont tombés un 15 octobre 1987, tués par la barbarie de leurs camarades. Notre espoir aujourd'hui de ce procès, de ce verdict, c'est que ce genre de crime odieux n'arrive jamais au Burkina et peut-être nulle part en Afrique. Donc c'est aussi un jour de soulagement, c'est un jour historique parce qu'à partir de ce procès, je pense que le véritable deuil de ces familles qui pendant 34 ans ont souffert, et croyez-moi, ils ont souffert, commencera véritablement.
Maître Mamadou Koulibaly, avocat de la défense, réagit à ce verdict pour un de ses clients qui a été condamné avec sursis.
Mon client, le procureur militaire, avait demandé de l'acquitter. Mais il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans avec sursis. Donc je peux dire qu'il s'en sort bien.
Maître Mathieu Sommet, avocat de Gilbert Diendieré.
C'est la peine plafonnée, donc elle est excessive de mon point de vue. Et si vous remarquez, en étant accusé présent, il a pris la même peine que ceux qui étaient absents. Bon, j'ai trouvé cela, sans rentrer dans le détail, pas tout à fait juste. Parce qu'il est venu quand même apporter sa contribution en s'expliquant devant le peuple.
Le tribunal a aussi condamné à 20 ans de prison ferme Drissa Sabadogo et Nabonswende Ouedraogo. L'accusé Yamba Élisée Ilboudo écope de 11 ans de prison ferme. Jean-Pierre Palme d'IJPP, colonel-major de gendarmerie et ancien ministre des Sports, écope 10 ans de prison ferme ainsi que Thibaut Ouedraogo, pour ne citer que ceux-là. 3 accusés ont été acquittés. Les parties ont 15 jours pour faire appel. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans les régions reculées du nord de la Côte d'Ivoire, des dozos chasseurs traditionnels se sont constitués en milices d'autodéfense. Des groupes djihadistes basés au Burkina Faso et au Mali voisin ont mené plusieurs attaques dans le pays ces 2 dernières années. Henry Wilkins a rencontré des membres de la communauté Dozo à Korogo. Le récit est de Nathalie Barge.
Les groupes djihadistes actifs au Burkina Faso et au Mali ont franchi la frontière pour mener des attaques et recruter dans le nord de la Côte d'Ivoire. Certains analystes estiment que les conditions ici sont les mêmes que dans les 2 pays voisins, comme le manque de sécurité de l'État, l'absence de développement et les tensions intercommunautaires. Ces Congo, miliciens d'Ozo, dit que la violence et le crime ont conduit à l'organisation de milices qui renforcent la sécurité.
Les ouvriers, la police, les gendarmeries, on travaille ensemble en tout cas. Même jusqu'à présent, nos CB souvent, ils nous appellent, bon, c'est comme ça, on veut travailler, bon, venez en faire ça ensemble.
Pourquoi c'est Léonia au Pamba?
Vous voyez, même tout à l'heure, le CBB vient d'arriver, dire merci et nous féliciter, soyez les bienvenus.
Au Burkina Faso et au Mali, des milices ont également émergé dans des zones envahies par des groupes terroristes où le contrôle de l'État est faible. Bakary Ouattara est le chef des Dozo à Korogo, ville du nord de la Côte d'Ivoire.
C'est vrai, l'État a les forces régaliennes. Et malgré que ces forces régaliennes sont là, l'État n'a pas les moyens efficaces pour installer ces forces régaliennes dans tous nos petits campements. Il y a des campements qui sont reculés de plus de 50 km, de 60 km, de 25 km de la gendarmerie, soit du commissariat. Imaginez aussi, cette population est attaquée. D'ici que les forces arrivent pour intervenir, vraiment, tout sera déjà parti.
En plus des questions de sécurité, les chefs traditionnels du nord du pays arbitrent également les différends au sein de la communauté. Issa Koulibaly, un chef traditionnel de Korogo.
Mais quand ils ont un problème qui les dépasse, ils recourent à moi. Ils dépendent de moi.
Monsieur Koulibaly affirme que le développement dans le Nord s'est amélioré ces dernières années, ce qui n'est pas vraiment le cas selon des habitants des zones rurales. Aussi, la tension entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs est source de conflits, comme dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Lassina Diarra, analyste à l'Institut de Tombouctou.
La cohésion entre cette communauté, Peul, et puis d'autres communautés, je n'ai pas encore vu une action très très forte de la part de l'État.
Arthur Ranga, historien militaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui conseille le gouvernement sur la situation sécuritaire dans le Nord, est plus optimiste.
Il y a une inquiétude, mais il n'y a pas encore d'exode ou de déplacés, parce que en même temps, jusqu'à présent, le gouvernement arrive à donner une bonne réponse militaire, tente aussi de construire une réponse sociale.
Contrairement au sud de la Côte d'Ivoire, le développement et l'état de droit peinent à atteindre le nord du pays, aujourd'hui exposé à l'insécurité. Sur cette question, le ministère ivoirien de la Sécurité n'a pas répondu à une demande d'interview de la Voix de l'Amérique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, les ONG des droits de l'homme dénoncent la disparition de plusieurs enfants supposés membres de gangs. Les parents n'ont pas accès au corps des victimes et les veillées funèbres sont interdites. Reportage Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dans le salon de sa fille où elle a fait le deuil, au quartier Mikalou à Brazzaville, la grand-mère Marguerite ne sèche pas ses larmes. Bientôt 3 mois, elle pleure un petit-fils, Chris Goma, dont elle n'a toujours pas vu le corps. Justinia Batimissa, la maman de l'enfant, est sans suite de toutes les démarches menées depuis la disparition du jeune Chris.
Du 10 février jusqu'au 2 mars, comme on n'avait pas la suite, on n'allait pas rester pendant 2 mois sur la veille. Comment dirais-je ? C'est vraiment difficile. Donc, vraiment.
Ce cas n'est malheureusement pas rare dans le pays. Un autre enfant, Grace Edgui Mabiala, arrêté par la police, a disparu depuis plusieurs semaines. La famille n'a pas pu organiser la veille funèbre, interdite par la police. Grand-mère de l'enfant disparu, Julienne Salla, restitue les informations collectées.
Aujourd'hui, donc on ne sait pas si on avait enterré, si on avait jeté, je ne sais pas. C'est une personne, même si quelqu'un, vraiment, c'est un voleur, on a dit, même si c'est un meurtrier, mais la justice s'est fait pourquoi? Mais là, ça c'est l'enlèvement. On a pris l'enfant 1h du matin, je ne sais pas si on l'a battu à 2h, à quelle heure, je ne sais pas. Vraiment, ça me fait mal.
Dans les deux cas et dans plusieurs autres, les parents des victimes identifient les bourreaux comme agents de police et ne peuvent rien contre eux. Du côté de la société civile, on dénonce ces disparitions forcées. Trésor Ndila Kende est le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement, CIAD.
La pratique des disparitions forcées est bien réelle au Congo-Brazzaville et de plus en plus, elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de violence étatique visant à réprimer des individus supposés appartenir à des gangs. Nous condamnons fermement cette pratique inhumaine et appelons les autorités congolaises à prendre toutes les mesures pour lutter contre cette pratique.
Par ailleurs, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, une ONG locale qui a dénoncé le décès en détention des 4 personnes, appelle les autorités à humaniser les conditions dans les prisons. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le dialogue avec les groupes armés est-il la solution à la crise sécuritaire au Sahel et dans d'autres régions du continent minées par des conflits? Le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Damiba, a en tout cas annoncé la création de comités locaux de dialogue avec les groupes armés djihadistes. Les pourparlers avec ces groupes armés sont-ils inévitables? Quelles approches dans ces discussions? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé mardi son intention d'élargir l'accès aux soins de santé en proposant des modifications à la loi sur les soins abordables pour permettre à des millions de familles américaines supplémentaires de souscrire à des régimes d'assurance maladie et d'obtenir des crédits d'impôt pour compenser le coût. Le reportage de Patsy Widakuswara et le récit de Nadit Talani.
Les États-Unis sont le seul pays industrialisé qui ne fournit pas de soins de santé à tous ses citoyens. Environ 8,6% des Américains, soit 28 millions de personnes, n'ont pas eu d'assurance maladie au cours de l'année 2020, selon les données du Bureau national du recensement. Le président Joe Biden veut réduire ce nombre.
Une fois que la norme proposée sera finalisée, à partir de l'année prochaine, les familles qui travaillent en Amérique recevront l'aide dont elles ont besoin pour s'offrir une couverture complète pour tout le monde dans la famille.
Joe Biden a annoncé sa proposition à la Maison-Blanche avec l'ancien président Barack Obama qui a signé en mars 2010 l'Affordable Care Act, une loi sur les soins de santé connue sous le nom d'Obamacare. C'était aussi la première visite d'Obama à la Maison-Blanche depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2017.
Joe Biden et moi avons fait beaucoup de choses ensemble.
Après 2 mandats avec Biden comme vice-président.
But nothing.
Mais rien ne m'a rendu plus fier que de fournir de meilleurs soins de santé et plus de protection à des millions de personnes dans ce pays.
Les modifications proposées par Joe Biden vont résoudre le soi-disant problème familial. Selon la réglementation en vigueur, les membres de la famille d'un employé qui achètent une assurance maladie par l'intermédiaire de leur employeur ne sont pas éligibles à un crédit d'impôt, même s'ils en ont besoin pour s'offrir une couverture. Le problème affecte 5 millions de personnes, selon la Maison-Blanche. Le représentant républicain Kevin Brady, le chef du comité des appropriations de la Chambre, a critiqué cette décision de Joe Biden. Le système de santé du pays est un système public-privé avec environ 65% des Américains couverts par une assurance maladie privée et le reste dépendant de la couverture publique, y compris Medicare et Medicaid.
C'est un pays qui est très orienté vers le secteur privé et l'employeur offre des avantages qui créent une discontinuité, si vous voulez, entre ceux qui n'ont pas de soins de santé universels pour tout le monde.
Environ 55% des Américains soutiennent Obamacare selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation. Pendant le règne de Donald Trump, les républicains du Congrès ont tenté à plusieurs reprises sans succès d'abroger cette loi. Depuis que Biden a pris ses fonctions, les inscriptions et la couverture par la loi sur les soins abordables sont au top. Cette loi a bien réduit le nombre de non-assurés qui s'élevait autrefois à plus de 46 millions.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.